bien, parce que c'est toujours un moment divin d'écouter les frères et sœurs partager ce qu'ils ont sur le cœur. C'est souvent, je veux dire, presque aussi béni que la prédication. Alors, comment essayer de commencer cette prédication? Parce que c'est bizarre, j'avais déjà commencé, j'avais déjà fait, le Seigneur m'avait donné une pensée sur le cœur. Et j'étais travaillé lundi après-midi, je ne sais absolument pas pourquoi, sur un verset. Et j'ai travaillé lundi soir sur ce verset, je me suis laissé porter par le Seigneur. Et tout à l'heure, Léo me demandait, avant la prédication, c'est quoi le titre de ta prédication? J'ai dit, mince, je ne sais pas, j'ai commencé par bredouiller quelque chose, ça ne correspondait pas du tout, j'ai dit, ah, c'est ça. J'aimerais vous commencer par... des questions. Quelles sont les barrières qui nous empêchent de voir Christ agir dans notre vie? Parce que, on l'a vu, on l'a entendu pour Léo, par exemple, elle voit que le Seigneur, elle se pose beaucoup de questions, mais le Seigneur lui permet d'agir, lui permet des choses. Et nous, est-ce que on ne voit pas le Christ agir dans notre vie? Peut-être que on dit c'est notre passé. On dit peut-être que c'est lié à la repentance, que j'ai pas eu ou que j'ai pas très bien fait, j'ai oublié quelque chose. Est-ce que j'ai du mal à ressentir l'assurance de mon salut? J'ai vraiment ressenti ce matin qu'il fallait vous parler d'un problème qui, pour certains, je suis persuadé, s'est réglé depuis très longtemps. Mais pour d'autres, ils en sont à plein de balbutiements, à se battre contre soi-même. Ça a été mon cas, je vous l'avouerai, et des fois le malin, il a été très très violent avec certaines situations de ma vie, dans le sens où il m'a mis dans des chemins, complètement aberrants. J'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai demandé pardon à la personne, à certaines personnes, parce que je manquais d'humilité en fin de compte. Et c'est ce matin, je voulais vous parler d'être humble. Humble. Et un jour, il y a un pasteur qui a déclaré dans son assemblée, il a commencé son prêche en disant « Si tous les chrétiens de ce monde pouvaient commencer par dire « Je ne sais pas » ou « Je regrette », il y a plein de choses qui seraient réglées. Il n'y aurait plus de guerre, plus de division, plus de médisance, il n'y aurait plus de divorce. C'est quoi s'humilier? Qu'est-ce que s'humilier? C'est s'abaisser volontairement. C'est pas un ancien qui prend votre tête, qui dit « Mais attends, tu vas commencer quand à obéir ?» Non. C'est nous, personnellement, devant le Seigneur. L'humilité, c'est un état d'esprit, c'est l'attitude de quelqu'un qui est humble et qui considère les autres comme au-dessus de soi-même. Tout à l'heure, je vous ferai une révélation qui m'a énormément aidé. Il y a une question qu'il faut poser déjà. Est-ce que je peux être humble aux yeux du monde sans être humble devant Dieu? Est-ce que d'après vous, c'est possible? La réponse, elle est claire. C'est non. C'est impossible. La réponse, elle ne peut être conçu suivant notre perception de qu'est-ce que c'est s'humilier devant Dieu. Et le verset qui m'a vraiment été posé sur le cœur, c'est en 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous devant, sous la main de Dieu. Et ce que je trouve formidable, c'est que c'est le fruit de cette humiliation devant Dieu. C'est qu'il va nous élever au temps convenable. J'ai souvent, dans mes combats, pensé que s'humilier, c'était le fait de s'abaisser, le fait de même si tu as raison, j'avais raison, les autres sont pires que moi, oui, j'ai raison. Et en fin de compte, je me suis aperçu une chose. C'est que le Seigneur, il me mettait plus bas que terre. Il m'a mis dans des situations incroyables. Ce que je voulais n'est jamais arrivé. Et le jour où j'ai plié le genou, je vous dis, et c'est réel, il m'a mis dans une situation et le jour où j'ai plié le genou, ce que je voulais depuis des années est arrivé. C'est seulement le jour où j'ai plié le genou. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est difficile? La réponse, elle est toute simple. Il n'y a aucune humiliation devant Dieu pour un chrétien. Si je m'arrête là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il n'y a aucune humiliation devant Dieu pour un chrétien. Parce que la position d'humilité, ça devrait être juste la position normale du chrétien. On n'a pas de question à se poser. Ça doit être la position de chacun ce matin, être humble aux yeux de Dieu. Humble sous la main de Dieu. S'humilier sous la main de Dieu. S'il y a un domaine où on ne devrait pas avoir de difficultés, c'est bien celui-là. Nous, chrétiens, on ne devrait pas avoir de problème. Et pourtant, on en a des problèmes. Toute notre nature de chrétien doit nous pousser à être humbles, à s'humilier sous la main puissante de Dieu. Est-ce que c'est notre cas ce matin? Est-ce qu'on a du mal à concrétiser notre vie avec Dieu, à lui obéir? Et si on réfléchit que les bornes de notre existence, elles sont vraiment limitées, elles sont petites. Je vais dire 110 ans. Qu'est-ce que 110 ans pour l'éternité? Et pour certains et certaines, c'est beaucoup plus jeune. C'est beaucoup plus jeune. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est l'orgueil. C'est le premier fléau, l'orgueil. C'est une source profonde qui nous empêche d'être humble, de s'humilier sous la main de Dieu et d'être humble. C'est un aiguillon qui est très profond et qui est très difficile à ôter. Le Seigneur a dû me casser en deux pour ôter cet aiguillon. Il a dû me montrer. Et ça a été, je peux vous dire que ça a été un combat, un vrai combat. Et ce que je me suis aperçu, c'est que tout venait de mon passé. Tout venait de mon passé. Et quand on sait que l'orgueil ne vient pas de Dieu, mais l'orgueil vient du monde. En 1 Jean chapitre 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. » Cet orgueil doit aujourd'hui faire partie de notre ancienne nature. Et si elle ne le fait pas, plions le genou devant le Seigneur. Elle fait corps avec ce que nous étions. Ça faisait partie de notre moi. Et on est tous orgueilleux. Sinon, pourquoi Dieu aurait mis ce verset, et je dirais même ces versets, puisqu'il y a celui dans Jacques, chapitre 4, verset 10, qui nous dit exactement la même chose. Humiliez-vous devant Dieu, et il vous élèvera. Pour ne pas avoir cherché à comprendre ce que Dieu voulait pour lui, l'être humain, dans sa folie, s'est installé dans son orgueil. Il voulait être l'égal de Dieu. Dieu t'a-t-il vraiment dit cela? Et voilà que l'homme s'est mis sous une vie de souffrance, une vie de tristesse, une vie de manque de paix. Et les autres, ceux qui sont autour de nous, vont se charger de nous humilier. Mais il faut jamais oublier une chose, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. En Jacques chapitre 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Quand il dit « il accorde au contraire une grâce plus excellente », c'est aux humbles. Les humbles reçoivent une bénédiction de Dieu. Quelles sont les conséquences? Ça entraîne la désobéissance, la deuxième source du manque d'humilité. Qu'est-ce que la désobéissance? Si ce n'est de croire être capable de faire mieux que l'autre, de faire mieux que Dieu. D'ailleurs, j'en ai pas besoin dans certaines circonstances de ma vie. Parce que tout mon être est capable de le faire. Je me sens incapable et je ne veux pas dépendre de l'autre, alors que peut-être ma vie spirituelle est triste, que mon être intérieur est souillé. J'ai été souillé par ce manque d'humilité. Et ce qui est incroyable, c'est que le malin s'est amusé avec moi parce que je faisais de l'auto-alimentation. Et ça ressassait, et ça ressassait. Bien sûr, vous avez compris que tout est lié au moi. À cette façon de se croire supérieur à l'autre. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne la parole. En Philippiens chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » La clé, elle est là. La clé, elle est ici. Regardez les autres en étant que les autres soient supérieurs à moi-même. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin, cette situation. Je veux vous partager ce qu'on m'a dit et que j'ai fait avec empressement. Quels sont les fruits de ce manque d'humilité, du fait de ne pas vouloir s'humilier devant Dieu? La première chose, c'est le manque de paix. Vous n'avez jamais la paix. Il y a toujours quelque chose dans votre vie, que ce soit votre vie de tous les jours ou votre vie spirituelle, qui n'ira pas. Réfléchissez. Vous allez voir. Il y a toujours, moi il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Toujours, toujours, toujours. Et c'est le Seigneur qui me mettait les évidences devant les yeux. On est continuellement insatisfait. Toujours vouloir être devant, être le meilleur. Travailler pour Dieu. Parce que Dieu a besoin de moi. Parce qu'il n'y a que moi qui peux le faire. Et pourquoi lui il est choisi et pas moi? Je perds la paix. Alors que le Seigneur veut nous donner sa paix. On l'a entendu ce matin. Ça nous a été dit. Je te donne la paix. Je te donne. C'est ma paix que je te donne. C'est pas la paix que toi tu as choisie avec tes petits trucs, tes arrangements, tes combines. Mais je te donne ma paix. Parce que ma paix vient d'en haut. Elle est souillée par rien de ce monde. En Proverbes 3, chapitre 1 et 2, verset 1 et 2, pardon. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront la paix. Vous savez ce que c'est être bouffé de l'intérieur? Ben c'est ça, c'est ce manque de paix, être bouffé de l'intérieur. Et là, ce verset nous dit « car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, se mettre sous la main puissante de Dieu ». Cette paix va couler, cette paix va nous remplir. Et il y a une deuxième chose qui est bien plus terrible. Elle est bien plus terrible. Et là, quand je vais vous le dire, vous allez être d'accord avec moi. C'est le libre cours à l'amertume. L'amertume, cette chose amère qu'on a dans le cœur. Toujours parce qu'on est contrarié, parce que les choses ne se déroulent pas comme je le veux, comme je l'entends, parce que c'est moi qui ai la meilleure idée. Je suis amer. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi devrait-il avoir raison? Alors que c'est ma pensée, c'est mon attitude qui fait que j'ai raison. C'est ce qu'il y a de pire, l'amertume. C'est la gangrène du cœur. Ça infecte, ça aveugle. On devient aveugle, incapable de distinguer que peut-être ce qui se passe dans notre vie est voulu par Dieu. Moi, je ne le voyais absolument pas. Que tous les problèmes que j'avais, c'est Dieu qui les mettait sur mon cœur. C'est pas le malin. C'est pas le malin. Le Seigneur me mettait à l'épreuve pour me faire baisser les genoux, pour me faire plier les genoux devant lui. J'étais incapable de voir que ce qui se passait, toutes les bénédictions que le Seigneur m'avait données, je les avais oubliées. Est-ce que c'est cela dans votre vie ce matin ? Est-ce que ma vie spirituelle est paralysée par cette position, par cette gangrène qui est dans mon cœur, l'amertume, qui fait que je ne perçois même plus l'Esprit de Dieu quand il parle. Parce que c'est ce que va faire cette racine d'amertume. Quand l'Esprit va parler, vous n'allez pas l'entendre. Parce que c'est toutes les idées, toutes les pensées qui seront dans votre cœur qui vont submerger. Parce que vous êtes amer. Est-ce que lorsque je parle aujourd'hui, je suis comme Job qui déclare au chapitre 10, verset 1, « Mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Est-ce que c'est comme ça que je vis dans le monde? Est-ce que c'est comme ça que je vis au milieu de l'Église? Moi, j'étais comme ça. Je dois vous le dire, j'étais comme ça. J'avais cette amertume au fond de moi. Ou est-ce que je veux obéir à la parole d'Hébreux, chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume a des racines profondes. Elle va chercher parfois très loin. Elle va chercher dans notre passé. Elle va chercher dans chaque chose que nous traversons et qui sont mélangées avec les choses de Dieu. Peut-être que c'est simplement un pardon à donner. Mais peut-être que c'est surtout baisser la tête devant Dieu, fléchir le genou devant Dieu. N'oubliez jamais que votre amertume peut troubler un frère ou une sœur et que vous allez avoir la responsabilité de les avoir éloignés du chemin de Dieu parce que vous les aurez dégoûtés, parce que votre témoignage ne sera pas celui que Dieu aurait voulu pour vous. Le troisième fruit, qui est lui aussi terrible, c'est l'évincement de l'amour dans votre cœur. Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui m'a dit un jour, pour être ancien, il faut aimer les gens. Quoi qu'il t'ait fait, quoi qu'il t'ait dit, il faut les aimer. C'est là où les problèmes viennent. C'est quand on a perdu cet amour. C'était le reproche que Jésus a fait à l'église d'Éphèse. J'ai contre toi que tu as perdu ton premier amour. Le manque d'humilité, le fait de ne pas vouloir s'humilier, enlève l'amour. Je ne parle pas ici d'un amour artificiel, hein, le fait d'être dans une église, être content, d'avoir la bonne ambiance. Je vous parle d'un amour profond. Même si vous êtes blessé, vous aimez quand même la personne. Jean, si vous lisez, j'entendais Emmanuel qui disait, premier épître de Jean, chapitre 2, vous allez trouver que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Moi, ça m'a fait réfléchir. Le Seigneur m'avait guéri, mais j'ai dit, mais c'est vrai que le secret, c'est l'amour. Et ce manque d'humilité vous enlève l'amour. Parce que vous allez toujours reprocher aux gens qui sont devant vous de ne pas les laisser faire ce que vous voulez, ce que vous entendez, ce que vous croyez. Mais il n'y a rien dans ce que vous pensez, dans ce que vous croyez, dans ce que vous voulez faire, qui ne vient de Dieu. C'est lorsque vous aurez baissé la tête devant Dieu, lorsque vous serez humilié, que là, toutes ces choses seront naturelles. J'aimerais opposer à ce que je viens de dire 1 Corinthiens 13. Lisez 1 Corinthiens 13 et vous allez voir ce que supporte l'amour. En 1 Timothée chapitre 5 verset 20, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. C'est ça aussi notre rôle à chacun. Reprendre les gens. Nos frères, nos sœurs, nos voisins, avec amour, les reprendre. Ici, il n'est pas question d'avoir de la crainte envers celui qui reprend, mais c'est la crainte de Dieu, la saine crainte de Dieu. Les choses iraient tellement mieux si nous écoutions le Seigneur, qui nous propose d'éviter ce chemin-là, souvent cruel, toujours destructeur. Parce que ça nous emmène dans des travers pas possibles. Et on peut galérer des années et des années avec ce manque d'humilité. Et vous avez vu ce qui est marqué ? Parce que le Seigneur nous élèvera au temps convenable. Si vous restez dans cette position, jamais vous n'élèverez la tête. Vous serez toujours petit et on sera toujours petit. Moi, je me trouvais minuscule. Quand j'ai découvert ce fléau dans ma vie, je me trouvais petit. Je me trouvais sale. Et c'est un combat terrible. Est-ce qu'on ressent notre misère? Est-ce que le moi aveugle le fait que nous sommes misérables? Moi, il m'avait complètement aveuglé. J'étais misérable. J'étais vraiment misérable. Et est-ce qu'on sent ce besoin ce matin de nous humilier sous la main puissante de Dieu? Mais qu'est-ce que l'humilité? Je vais évoquer avec vous deux points et ensuite deux sources. Le premier point qui dénote totalement avec cette idée de moi, et de vivre une vie de désintéressement. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre une vie de désintéressement? Ça veut dire que vivre les choses de Dieu comme venant de Dieu n'est pas indispensable dans notre vie. Et quand je dis indispensable dans notre vie, je vais vous l'expliquer. C'est en fin de compte accomplir les œuvres de Dieu sans vouloir en tirer un bénéfice ou une gloire. C'est ça, ça veut dire ça. Parce que quand on voit des grands orateurs qui ont des jets, qui ont des superbes bagues en or, serties de diamants, qui ont des Rolex à 25 ou 30 000 euros. Quel témoignage! Quel témoignage! Est-ce qu'ils vivent une vie désintéressée pour le Seigneur? Ou est-ce que c'est pleinement leur moi qui est en route? Est-ce qu'ils veulent vraiment accomplir les œuvres que Dieu leur a donné d'exécuter? J'ai choisi un verset, 1 Timothée chapitre 2, verset chapitre 3, verset 2 et 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. C'est simplement vivre la vie de Christ. C'est s'effacer pour que les autres soient élevés devant nos yeux. C'est ça, une vie désintéressée. Le deuxième point qui, je suis persuadé, va faire sourire certains et peut-être beaucoup, c'est revêtir le tablier de servitude. C'est une manière imparable de montrer son humilité. C'est une manière de marquer le fait qu'on sert les autres. Et en Ésaïe, enfin c'est une parole qui était donnée en Matthieu, chapitre 12, verset 18, mais qui a été citée en Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » On parle de Jésus, mon serviteur, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Et si ce verset devenait le vôtre? Si l'Éternel s'adresse à vous aujourd'hui? C'est pour vous. C'est pour chacun d'entre nous, ce verset. Servir les autres est une preuve flagrante d'humilité. Faire des choses sans que quiconque n'en soit avisé. Il y a des spécialistes ici dans notre assemblée, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a des spécialistes qui font des choses, on ne voit pas, et puis des fois on fait des choses, on dit tiens, je pensais qu'il n'y en avait plus la dernière fois, et puis miraculeusement, ben, ça apparaît. Et pourtant, personne n'est venu nous voir en disant « Tiens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Quelles sont les sources de cela? Et là, je vais être un petit peu plus grave. Pour se poser des questions, la première source, c'est la nouvelle nature. Il est impossible à quelqu'un d'être humble par ses propres moyens. Si, il va l'être quelques heures, et je m'arrêterai là, je ne dirai même pas quelques jours, il va l'être quelques heures. Seuls ceux qui sont en Christ peuvent connaître ce renouveau, peuvent connaître cette nouvelle nature, peuvent connaître ce besoin de s'humilier devant les autres, de s'humilier devant Dieu. C'est un changement radical. Le moi n'existe plus, puisque c'est Christ qui vit en nous. Nous, on n'existe plus. On est effacé aux yeux du monde et on est devenu serviteur de Christ. Et c'est normalement notre profession de foi. C'est ce qu'on a déclaré, peut-être pas ici, peut-être dans une autre église. C'est parce que je reconnais que le Seigneur Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. C'est ce qu'on a déclaré publiquement. S'il est mon Sauveur et mon Seigneur, pourquoi c'est moi qui dirige ma vie? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi c'est encore mon moi qui dirige ma vie? Alors que j'ai déclaré, oui, le Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce qui était le Pascal d'autrefois, on n'en parle plus, il est mis à la poubelle. Je suis une poussière devant Dieu. Le deuxième point, qui est aussi important, c'est la liberté dans l'Esprit de Dieu. Et normalement, vous devriez déjà tous comprendre, parce que si on a encore ce manque d'humilité, si on a encore ce manque de besoin d'humiliation devant Dieu, l'Esprit ne peut pas agir en nous. Il ne peut pas agir. On bloque l'action du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si je n'ai pas Christ en moi, je n'ai pas l'Esprit. Et je n'ai pas non plus cette liberté. Si on réfléchit à tout ce qui vient d'être dit, je suis bloqué spirituellement parce que je veux diriger ma vie, parce que je me sens supérieur aux autres, parce que j'ai le droit, peut-être que je suis plus ancien chrétien que vous, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi devant la grandeur de Dieu? Ça veut absolument rien dire. Ce n'est pas la durée de vie dans une église qui fait de nous des croyants. C'est notre adhésion à l'œuvre de Christ. C'est notre amour pour Christ. C'est notre façon de s'être humilié devant lui. D'avoir décidé de ne plus exister pour que lui existe au travers de nous. C'est la liberté de Dieu qui fait que, de l'Esprit qui fait que on est libéré de nos chaînes, du carcan du monde, de notre moi, des principes qui régissent notre vie, parce qu'on a des principes. Notre éducation, notre passé fait que parfois on vit suivant ce qu'on a vécu. C'était mon cas. Et le Seigneur a dû montrer, a dû provoquer des choses. Et c'est encore un combat. Et c'est tout cela qui nous empêche de nous humilier sous la main puissante de Dieu. Et n'oubliez jamais que lorsqu'on marche selon l'Esprit, on n'accomplit plus du tout les désirs d'autrefois. En Galates 5, 16, je dis donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Est-ce que ce matin, je veux marcher selon l'Esprit? Celui qui a reçu Christ a reçu l'Esprit. Si je vous disais autre chose ce matin, je serais anathème. Celui qui a reçu Christ a reçu l'Esprit. Et c'est cet Esprit qui vous fait crier aujourd'hui « Abba, Père ». Si je suis incapable ce matin de m'humilier devant Christ, je ne lui appartiens absolument pas. C'est la parole qui nous le dit. En conclusion, s'humilier aujourd'hui est perçu comme un signe de faiblesse, comme un acte négatif, aux yeux du monde, bien sûr. C'est une dévalorisation volontaire de notre moi. C'est un rabaissement de notre personnalité. Vous imaginez dans quelle erreur on se trouve. Et vous avez ce qui est malheureux dans certaines entreprises où on met comme une compétition entre différents directeurs, différents responsables, pour savoir qui va être le meilleur. Et tous les stratagèmes sont mis en route et on écrase l'un, on écrase l'autre. Est-ce que c'est notre cas ce matin? Et je ne veux pas ce matin vous évoquer tel ou tel complexe. J'ai tel complexe, j'ai tel ceci, tel cela. Il s'agit simplement ce matin de mesurer ce que nous valons aux yeux de Dieu. Et que ce que nous valons, le peu que nous volons, est-ce qu'il peut l'utiliser pour sa gloire? C'est impossible, bien sûr, sans avoir compris ce qu'est l'importance de s'humilier chaque jour devant le Seigneur. C'est chaque jour pour recevoir ce que Dieu a à nous donner. Il a tellement de choses à nous donner. C'est reconnaître devant Dieu sa petitesse. Et cette chose va simplement faire. Et quand je dis simplement, je le fais exprès. Simplement faire que le Seigneur va faire des choses immenses dans notre vie. Et il va nous élever au moment où il aura choisi. Tant qu'on baissera la tête, tant qu'on ne voudra pas s'humilier devant le Seigneur, tant qu'on relèvera la tête et qu'on ne voudra pas s'humilier devant le Seigneur, ce moment convenable n'arrivera jamais. Sinon, je vais à l'encontre du verset que je viens de vous lire. Et Jésus le sait, puisqu'il déclare en Matthieu 23, verset 12, « Quiconque s'élèvera sera abaissé. » Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors pourquoi s'élever devant Dieu? Il me reste encore 2-3 minutes. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Il règne et possède l'autorité absolue sur chacune de nos vies. Si on ne le savait pas, ben c'est bien triste. Il est créature, il est créateur et nous sommes ses créatures. Et ce matin, il serait bien de dire nous sommes sa création. Il est saint et nous sommes pécheurs. Il est infaillible et nous sommes enclins à l'erreur et à l'égarement. Il a toujours raison et nous pouvons avoir tort, et s'humilier veut dire alors qu'on s'incline devant sa volonté. Il doit être glorifié pour ce qu'il accorde à chacun d'entre nous. Et souvent c'est notre moi, c'est notre personnalité qui fait qu'on ne voit même plus les miracles que Dieu fait dans nos vies. Il nous a sauvés et nous lui devons d'être ce qu'on est aujourd'hui, en sachant de là où il nous a tirés chacun. En psaume 119, verset 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Et j'aimerais vous donner une dernière promesse. En 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous mettez cœur au lieu de pays et vous allez comprendre la grandeur de Dieu. J'ai inscrit une prière, j'aimerais vous la lire. Ça doit être votre, ça doit être notre prière, comme moi elle l'a été à un moment de ma vie. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est vrai, tout en moi me pousse à m'humilier sous ta main puissante. Je le fais donc ce matin simplement, et je te confesse ma faiblesse et le besoin que j'ai de toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais vous laisser sur ce verset. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu, ce matin, veut vous élever. Il ne veut pas qu'aucun d'entre vous reste dans une position de force, dans une position où peut-être on a l'impression d'avoir raison, parce qu'il a des bénédictions à donner. On parle de Noël, on parle de cadeaux. La différence avec les cadeaux terrestres, c'est que les bénédictions de Dieu ne vont pas pourrir. Elles vont durer à l'éternité. Et en vous humiliant, en nous humiliant sous la main puissante de Dieu, c'est la vie éternelle que nous voyons déjà sur terre, parce qu'on est mis à part pour Dieu. Amen.